Eh bien voilà, c'est aujourd'hui que l'histoire se joue. Un 46e président des États-Unis est à la veille donc d'être assermenté avec une vice-présidente qui va cumuler les premières. Première femme à être vice-présidente, première femme aussi racisée. Donc c'est une nouvelle ère, en tout cas les Américains l'espèrent et nous un peu aussi avec, puisque on peut avancer sans trop se tromper que si on était américain, on est probablement une majorité qui aurait voté pour un démocrate. Donald Trump qui a été mis dehors de bizarre façon, surtout parce que lui-même a eu des réactions extrêmement inattendues, même si ben, ceux qui le connaissent disent bon, c'est tellement à lui de pas dire bonjour à son suivant, parce qu'en fait pour Donald Trump, Joe Biden c'est comme Voldemort, il a pas prononcé son nom. Il ne sera pas présent, d'ailleurs, à cette cérémonie d'investiture. Si vous voulez bien, au cours de la prochaine heure, je vais vous donner l'occasion de vous prononcer là-dessus. Je vous pose la question, elle est assez générale. Et vous pouvez évidemment nous donner tout autre commentaire connexe, bien sûr, à cet événement quand même historique. Est-ce que, d'après vous, cette nouvelle ère, avec un nouveau président des États-Unis, ça va avoir un impact sur nous, Québécois, Canadiens? Est-ce que ça va améliorer nos relations avec les Américains? On sait que Donald Trump avait un rapport extrêmement mitigé, pas toujours chouette avec le Canada. Ça a commencé dès son arrivée avec Justin Trudeau. On se souvient de l'espèce de façon dont il avait là, avec Justin comme avec les autres d'ailleurs, de leur prendre le bras là, puis les forcer une poignée de main. Ça a beaucoup marqué ça, au début de l'arrivée de Trump. Joe Biden a une autre façon de serrer la main aux gens. On va en discuter avec nos invités. Je vous présente tout de suite notre collègue chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand et les chroniqueuses politiques américaines au réseau Cogeco, Valérie Beaudoin. Salut Valérie!
Bonjour!
C'est une journée historique et c'est vrai que ça tranche en termes de passation de pouvoir, parce que pour la première fois de l'histoire moderne, on va dire, là, depuis 1869, au moment où Andrew Johnson passait la POC au prochain, c'est la première fois qu'un président n'assistera pas, un président sortant n'assistera pas donc à la cérémonie qui acclame son successeur.
Oui, parce que la cérémonie d'assermentation pour les Américains, il faut mettre ça dans le contexte, c'est extrêmement important. On voit ça comme une démonstration à quel point c'est pacifique aux États-Unis la transition du pouvoir, parce qu'ils s'autoproclament les Américains comme la plus grande démocratie de la planète, et on voit ça comme une tâche justement, ce qui se passe aujourd'hui.
Et sinon, on suit le protocole habituel. Ça va être une assermentation qui sera assez traditionnelle, dans le fond.
Oui, assez traditionnelle, mis à part qu'on n'aura pas, bien sûr, les gens qui pourront assister, donc le public, en raison de la COVID-19 et bien sûr, des menaces à la sécurité. Mais sinon, oui, ça sera très protocolaire. Jusqu'à 11h59, c'est Donald Trump, le président des États-Unis. À midi, la main sur la Bible, Joe Biden deviendra le 46e président américain.
Voilà. On va revenir, bien sûr, tu vas nous dire un peu ton analyse là-dessus, là, sur ce que ça va changer ou ce que ça risque d'améliorer avec les Américains, avec nos relations, surtout avec ce pays qui est notre premier partenaire commercial à nous, Canadiens. Mais avant, on va rejoindre notre correspondant à Washington, Philippe Gasseau, qui va pouvoir nous faire une espèce d'état des lieux. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Alors, en matière de sécurité, ça a l'air de quoi, là? Décrivez-nous un peu où vous êtes et ce que vous voyez.
Alors, écoutez, Philippe. Oui, je suis à, disons, 50-60 mètres de la Maison-Blanche. Vous savez que tout a été entouré d'immenses grilles infranchissables. Donc, on voit la Maison-Blanche de loin. Et je suis à l'endroit où les Black Lives Matter manifestaient régulièrement face à la Maison-Blanche. Donc, on est vraiment tout près. Alors, vous dire qu'il y a énormément de monde, ce serait exagéré. J'ai compté, on doit dépasser à peine la petite centaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains n'ont pas lâché prise après le départ de l'hélicoptère ce matin pour la base d'Andrew. Ils sont venus avec des bannières, quelques-unes, pas beaucoup, mais des bannières dont je ne vous dirai pas le slogan, mais ça commence par un F, et en dessous, il y a Trump. Donc, vous voyez qu'il y en a qui considèrent que son départ n'est pas suffisant et qu'il faut aller plus loin. On demande même qu'il soit condamné comme président n'ayant pas eu la capacité, ayant transgressé la loi. Donc, on voit quelques inscriptions, mais je pourrais dire qu'il y a presque autant de journalistes que manifestants. On voit que ici, il est exactement la même heure que chez vous, mais la haine ne s'est encore pas réveillée. Il y a un peu de musique, c'est pour ça que je me mets un peu à l'abri de ce bruit un peu intempestif. On a mis on a mis les haut-parleurs à fond. Alors, ce qui se passe, c'est au niveau du service d'ordre, eh bien, j'ai croisé ce matin des patrouilles de gardes nationaux qui étaient là avec la tenue de combat, les Rangers, avec les casques et avec le M16 parachutiste, avec la crosse qui est amovible. Et on a l'impression ici que la ville est en état de siège, ouais. et qu'on attend pas moins que l'armée rouge,
vous
voyez.
Voilà, donc, ben oui, vous m'avez envoyé des photos, Philippe Gasson, puis c'est vraiment impressionnant de voir, évidemment, tout le périmètre de sécurité. On parle d'un périmètre de 13 kilomètres de circonférence, c'est quand même assez. On comprend là qu'on veut pas que ce qui s'est passé au jour pour jour il y a deux semaines, ça arrive à nouveau. Mais je pense qu'on a pris toutes les mesures, d'après vous, là, pour qu'il n'y ait pas d'assaut, il n'y ait pas d'incident malheureux. Parce que pour bien des experts aux États-Unis, d'ailleurs, cette cérémonie d'investiture, c'était pas une bonne idée de la faire, parce que il y en a qui disaient, c'est sûr que dans les jours qui ont suivi l'assaut du Capitole, il y a des gens qui disaient, mon Dieu, c'est une très mauvaise idée. C'est un risque énorme pour le nouveau président et sa vice-présidente.
Oui, mais vous savez qu'habituellement, on peut compter une dizaine de milliers de soldats, j'allais dire, dans les passations de pouvoir classiques. Mais là, on a carrément doublé la mise. Alors, la question qu'on se pose, parce que nous sommes journalistes, évidemment, eh bien, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de communication là-dedans? C'est-à-dire que Trump est parti ce matin. On l'a vu sur un tout petit bout de tapis rouge, il s'est avancé vers l'hélicoptère Marine One pour aller à la base d'Andrew. Et contrairement à son habitude, on pourrait dire, il n'y a pas eu d'effusion, il n'y a pas eu de signe vers les quelques personnes, il n'y avait pas grand monde de l'autre côté de la Maison-Blanche, pour lui signifier regret et adieu. Vous voyez, il est parti un peu, j'allais dire, la tête basse. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train ici, compte tenu du service d'ordre, qu'on pourrait appeler un service d'ordre quand même démesuré, est-ce qu'on ne fait pas le lien entre le départ d'un président? Alors, je peux dire qu'il est honni. Ici, je suis dans un fief à Washington, un fief démocrate.
Ben oui.
Donc, est-ce qu'on n'a pas remis une petite couche avec ce service d'ordre en disant, vous voyez, le président honteux s'en va et nous sommes obligés d'assurer la sécurité de la capitale, car ce président qui s'en va a mis en danger la démocratie américaine.
Voilà. Ben, merci beaucoup, Philippe Gasson, pour ces informations. Merci bien.
À bientôt.
Merci. Valérie Beaudoin, donc, je reviens à toi, Valérie, parce que, bon, là, ce que nous décrit Philippe, c'est une ville, en tout cas, certainement un périmètre autour de Washington, là, de la capitale, de la Maison-Blanche, qui est vraiment très, très, très contrôlée. Tu disais tout à l'heure, ce qui tranche avec le protocole habituel, traditionnel de cette assermentation, c'est le fait qu'il n'y aura personne. D'habitude, il y a du monde qui célèbre l'arrivée du nouveau président. D'habitude, il y a l'ancien président. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé les gens par des milliers de drapeaux. Et ça, c'est une idée intéressante, mais en même temps, c'est pas la même ambiance non plus. Mais on dit qu'il y a 190 000 drapeaux, donc, qui ont été plantés pour représenter les Américains qui auraient été, sinon, très nombreux.
Oui, parce que j'y étais il y a 4 ans à la sermentation de Donald Trump et je peux vous dire que sur place, c'est le moment de on est festif, on veut célébrer quand c'est bien sûr notre président qui est assermenté. Les gens qui sont en opposition, il y avait des manifestations assez pacifiques autour de la sermentation, mais cette année, justement, avec ces drapeaux, on a voulu en quelque sorte souligner qu'il y en a des millions d'Américains qui auraient aimé assister à cette assermentation. C'est la façon de faire en temps de COVID. Et pour ce qui est de Washington, j'entendais Philippe Gasson le dire, je ne reconnais pas la ville dans les images que je vois actuellement. On dirait qu'on n'a pas le cœur à la fête. C'est une ville forteresse en ce moment, avec tous ses membres de la garde nationale un peu partout. Et vraiment, là, on craint toujours qu'il y ait quelque chose aujourd'hui, mais avoir la sécurité, avoir le protocole autour de tout ce qui se passe, qui entoure cette assermentation, ça serait très, très difficile d'entrer illégalement et de faire quelque chose. Mais bien sûr, on ne souhaite pas qu'il se passe quelque chose à l'assermentation de Joe Biden.
Non, effectivement, c'est quand même c'est incroyable, pareil, d'être un élu comme ça et de se dire, tu te mets dans la peau de Biden ou de Kamala Harris, puis tu te dis, ils doivent y penser, là. C'est un risque, un sniper pourrait tout à fait, ça oui. pourrait arriver, il y a rien, il y a le risque zéro, on le dit souvent, mais c'est vrai que ça n'existe pas. J'aimerais t'entendre sur... sur justement cette analyse, parce que la question, puis on va aller à la pause ensuite, puis les auditeurs auront l'occasion de témoigner de ça, mais comment tu vois les relations, Valérie, avec le Canada? Est-ce que tu vois un changement de ton? Déjà, on a vu le dossier qui se tourne, ça est allé fort, là, oui. Tu regardes, ça n'arrivera pas.
Jour 1.
Oui, imagine le 2 puis le 3.
Exactement. Pour ceux qui pensent qu'avec un président démocrate, ça va être au beau fixe avec le président américain, avec le premier ministre canadien, que ça va être des belles relations, je vais dire, c'est un va être un retour à la normalité. À c'est quoi les relations internationales? C'est quoi la diplomatie? C'est quoi la négociation entre deux pays? Parce que ce qu'on avait en ce moment, c'était toujours une négociation avec une espèce de couvert de la menace. C'était pas très subtil non plus la façon que Trump négociait. On l'a vu avec justement Justin Trudeau sur plusieurs dossiers. Donc, on va revenir à cette normalité. Mais Joe Biden l'a dit, ça sera pas « Make America Great Again » et « America First » dans ses slogans, mais ça va être « Buy America ». On va rester justement avec cet esprit-là que c'est important d'encourager les entreprises américaines. Joe Biden pense souvent aux travailleurs américains, ça a toujours été comme ça. Et il veut vraiment, avec ses 4 ans de présidence, parce que ce sera une présidence, on le sait, de transition, il ne va pas nécessairement revenir dans 4 ans, rétablir les relations internationales avec les alliés. Et peut-être les ennemis d'antan vont redevenir des ennemis. Je pense entre autres à la Russie, à la Corée du Nord. Ça va vraiment changer de ton à Washington pour le mieux. Joe Biden, qui a quand même déjà une relation avec Justin Trudeau, il l'a rencontré lorsqu'il était vice-président de Barack Obama, et Kamala Harris, qui a quand même, on le dit toujours un peu à la blague, là, mais une sensibilité envers Montréal, je vais dire ça comme ça parce qu'elle a déjà étudié ici, mais je pense pas qu'elle a tant d'attachement, mais quand même, elle va aussi visiter assurément le Canada.
Mm-hmm. On va s'arrêter ici. Peut-être juste un petit mot de notre correspondant Philippe, là, qui on vient de parler, mais qui a quelque chose à nous dire parce que là, ça se passe en ce moment même. Alors, vous êtes au bon endroit à cette émission pour suivre l'action à Washington en ce grand jour d'assermentation du 46e président des États-Unis. Et là, c'est la vice-présidente que vous voyez, Philippe.
Oui, on voit surtout des gens qui se, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas énormément de monde, et là, on voit des personnes qui se rapprochent des endroits où il n'y a pas si longtemps, la communauté noire manifestait. Cette fois, eh bien, on voit des personnes qui s'avancent pour, j'allais dire, saluer le départ du président, et il y a maintenant de plus en plus de monde, malgré un petit vent assez frisquet, que vous connaissez sûrement au Canada. Ici, on est un peu moins habitué, mais on brave un peu ce froid pour venir, par sa présence, saluer, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, saluer le départ de Donald Trump. Je me mets encore à l'abri parce qu'on a augmenté le volume de la musique.
Est-ce que vous avez vu Kamala Harris?
Je vous entends très mal en raison du bruit.
Ouais, on va aller. Il y a du vent là-bas, en tout cas. Ça vente à Washington. Merci, Philippe. On va y revenir. On va à la pause. On vient tout de suite après. Dites-moi si vous pensez que les relations avec les États-Unis vont changer, donc, avec l'arrivée de ce nouveau président. Assermentation toute la journée aujourd'hui. Bien sûr, mes collègues, bien sûr, dans les autres émissions auront l'occasion de suivre ça avec vous. Mais nous, puisqu'on est finalement au même moment où ça se prépare, puisqu'ils seront assermentés à midi pile, là, en ce moment, on assiste à l'arrivée. Joe Biden qui va prêter serment, tout ça. C'est fort intéressant de voir cette actualité et surtout cette histoire se dérouler devant nous. Pour nous joindre et nous donner votre opinion là, sur ce qui se passe, changement de garde, c'est le cas de le dire, 514-790-9850. Et bien sûr, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. The thunder rolls and the lightning strikes. Another love grows cold on a sleepless night, as the storm goes on out of control. Deep in her heart, the thunder rolls. Valérie Beaudoin est chercheure associée à la chaire Raoul Dandurand, chroniqueuse politique américaine au réseau Cogeco. Donc Valérie, tu nous disais qu'il y aura définitivement des négociations certainement plus subtiles désormais avec Joe Biden. Il y en a un qui doit être content, c'est Justin Trudeau quand même.
Ah oui,
même
oui.
Si, on le disait tout à l'heure, ça commence fort puis raide avec le fait que le projet de Keystone, qui est un projet important, en tout cas pour les Albertains, ça n'a pas tardé de voir la réaction. L'opposition aussi à Ottawa qui le dit, ben là, c'est là où on va voir si Justin Trudeau va être capable d'avoir cette pogne pour pour convaincre à nouveau que c'est un projet qui sera bon pour le Canada et y compris pour les États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet-là?
Ben écoute, ça va avec Biden et ses promesses de mettre au centre de sa présidence l'environnement. Donc, il l'a dit, ça faisait partie des promesses justement pour aller rallier l'aile plus à gauche du parti et il va rejoindre aussi l'accord de Paris dès aujourd'hui normalement. Donc, on veut aller et démontrer que la priorité, c'est les changements climatiques. Donc, s'il va avec le projet de Keystone, il va s'attirer des critiques de son propre parti. Donc, ça va être assez difficile, à mon avis, de le convaincre de faire le contraire.
Voilà. Tu voulais nous parler aussi de toute la liste d'invités là, qui allaient être présents aujourd'hui. Il y en a des connus, évidemment. On vous a fait jouer tout à l'heure une chanson de Garth Brooks, qui est le chanteur country, qui avait refusé, d'ailleurs, d'être présent. Donald Trump, il avait demandé la dernière fois. Il avait dit non, t'occupe pas d'autre chose. Là, il était disponible, ça tombe bien. Comme Lady Gaga, qui va chanter l'hymne américain, oui. Je pense, Lady Gaga. Il y aura Jennifer Lopez également qui va être là. Donc, il y a vraiment beaucoup de vedettes. Tom Hanks qui va être en charge de l'émission de ce soir à 20h30, qui va être diffusée un peu partout sur les réseaux américains. Il y a beaucoup d'artistes, en tous les cas, qui sont en faveur de Trump. D'ailleurs, il y a même la guilde des acteurs qui dit, ouais, Trump, là, si jamais il veut refaire de la télé, pas sûr, parce qu'il pense même le sortir de la guilde. Ça brasse finalement là. Cette liste d'invités donc.
Oui, il s'est pas fait d'amis à Hollywood dans les dernières années, Donald Trump, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'invités. C'était plus facile pour Joe Biden d'avoir sa liste d'invités puis ses choix aujourd'hui. Mais parmi les invités, moi que je remarque puis qui m'ont marqué, c'est Amanda Gorman. Donc c'est une poète de 22 ans, une activiste afro-américaine. Comme Biden, elle a eu un problème de bégaiement qu'elle a surmonté. Donc il y a quand même une belle histoire derrière ça. Puis elle a écrit un poème qu'elle a terminé d'écrire après l'attaque du 6 janvier. Donc, ça va vraiment être au niveau de l'espoir, de dire que la démocratie américaine sait se relever. Donc, ça va être très, très inspirant, je trouve, comme histoire.
Ouais.
On va avoir aussi une pompière afro-américaine, la première à diriger une caserne en Géorgie. Donc, il y a toujours une signification derrière chaque invité comme ça. On va avoir aussi le révérend de Joe Biden du Delaware qui va faire la fameuse bénédiction, hein, parce que le côté tout religieux, tout traditionnel autour de tout ça. Et juste peut-être pour l'anecdote, il va avoir une Bible plus vieille de plus de 120 ans, une Bible familiale de Biden. C'est là-dessus qu'il va prêter serment. Donc, il a choisi de prêter serment sur cette Bible-là. Et Kamala Harris, elle, c'est vraiment très, très significatif ce qu'elle a choisi. Une appartenant à une amie de la famille qui l'a encouragée en politique et une qui a appartenu au premier juge à la Cour suprême qui est afro-américain. C'était sa Bible personnelle. C'est son idole à Kamala Harris parce qu'on le sait, elle est à moitié jamaïcaine, à moitié indienne. Donc, elle voulait faire vraiment un geste aussi avec cette main qu'elle posera sur la Bible pour prêter serment. Donc, il y a toute cette signification derrière ça.
Et donc, les deux vont jurer sur la Bible.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des présidents qui ne l'ont pas fait?
Non, c'est toujours sur la Bible, mais j'imagine que dans le futur, s'il y aura un président qui sera, par exemple, d'une autre confession religieuse, on est loin de ça. Quand même, aux États-Unis, il faut se rappeler...
Écoute, la messe ce matin, c'est la première affaire qu'ils ont faite en
seulement. Depuis 1933, depuis FDR, il y a toujours une messe le matin. Et là, écoutez, on avait la messe pratiquement en direct. C'est un événement politique aux États-Unis, mais écoute, Donald Trump avait, lui, je pense, à peu près 8 personnes qui faisaient des prières à son assermentation. La norme, c'est 2. Joe Biden, il va y avoir 2 personnes qui font des bénédictions. Mais justement, Donald Trump, pour faire plaisir aux évangélistes, pour faire plaisir aux gens de la droite religieuse, on avait, on va dire ça en bon québécois, beurré épais dans le côté religieux et traditionnel de la cérémonie, là, il y a 4 ans.
Ouais. On a Jocelyne qui nous appelle. Bonjour, Jocelyne.
Allô?
Comment vous voyez ça, l'arrivée de ce nouveau président des États-Unis, Joe Biden? Pensez-vous que ça va être bon pour nous, Québécois et Canadiens?
Ah ben oui. C'est sûr, il va continuer le bon ouvrage de M. Obama. Il est déjà dans les 2 pieds dedans, là. Mais c'est de valeur pour lui, là. On lui a laissé un paquet de niaisages, là. On s'est débarrassé d'un virus, maintenant on va se débarrasser de l'autre.
Bon, c'est bien dit comme ça. Merci, vous allez suivre ça aujourd'hui? C'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne? Vous trouvez que c'est important?
Oui.
Oui,
on va pouvoir souffler un peu.
Bon.
Pas attendre après cette balade-là. Là.
Bon, ben merci. Merci beaucoup, Jocelyne. Jocelyne qui portait pas Donald Trump dans le cas. On a dans le cas, on a Abder qui nous appelle. Bonjour, Abder.
Bonjour, Isabelle. En fait, moi, je vais être bref. Bon, Biden, tout le monde se réjouit du départ de Trump, mais il faut pas s'attendre à des merveilles de Biden qui est quand même soutenu. Il faut pas se voiler la face. par toutes les organisations religieuses pédophiles à travers le monde. Et moi, je suggère aux politiciens québécois et canadiens d'une manière générale de balayer devant leur porte avant de donner des leçons à d'autres. Et quand je vois Lady Gaga soutenir Biden, de toute manière, c'est tout à fait normal. Tous les Gagas se soutiennent, là. Voilà mon propos. Oui. Tous les Gagas se soutiennent.
Tous les Gagas se soutiennent.
Ouais, en commençant par Lady Gaga jusqu'à Biden.
Merci, merci. On a Gilles qui est avec nous. Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour. Moi, je crois que la chose la plus importante que Biden va changer, peu importe si c'est bénéfique pour le Canada ou pas, là, économiquement, c'est la foi en la démocratie et puis l'espoir que les choses peuvent changer et que finalement, on va appeler ça le bien, triomphe du mal, mais en tout cas, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais comme ça va là, je crois que il y a beaucoup de consciences qui vont changer aux États-Unis tranquillement. Mm. Et puis le mouvement Trump peut pas rivaliser avec un mouvement de bien-être, en tout cas.
De bienveillance.
L'amour va triompher du mal.
Ouais. Ben, il faut le souhaiter, il faut le souhaiter. Merci, Gilles, de ce commentaire. Valérie Beaudoin, tu disais tout à l'heure, on comprend dans ton analyse, puis je pense que c'est très vrai, les États-Unis ne changeront pas du tout au tout. C'est un pays qui a toujours été protecteur de ses industries, mais je pense que tous les pays légitimement le sont aussi. D'une certaine façon, le Canada aussi prône pour ses manufacturiers. On va d'ailleurs parler tout à l'heure à la présidente des manufacturiers exportateurs du Québec pour avoir son opinion là, sur l'arrivée de Joe Biden, mais sans que ça change du tout au tout, il y aura quand même un changement de ton. Ce changement de ton va être important. Gilles vient de nous dire, retour à la démocratie, l'amour va triompher. Et tu disais, ça sera une présidence de 4 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a 4 ans pour changer, pour défaire finalement un peu ce qui a été fait. Est-ce que ça peut être possible? Est-ce que tu as l'impression que c'est au cœur de sa mission à Joe Biden?
Oui, à mon avis, il est vraiment placé Joe Biden à la Maison-Blanche. Et je dis placé parce que c'était pas le candidat favori de tout le monde. C'était un candidat qui était là justement pour la transition. Parce que Biden, pour avoir suivi la campagne, n'a pas soulevé des foules autant que d'autres. Voilà. On s'attendait pas à un certain moment même qu'il se rende jusqu'à la nomination démocrate. Mais c'est le parfait candidat parce que justement, c'est quelqu'un, on disait que la dignité rentrait à Washington. Je trouvais que c'était très bien dit. Quelqu'un de digne rentrait, qui voulait respecter ce qu'était la présidence. Et la relation la plus facile à reconstruire, ça va être avec le Canada. C'est le voisin, c'est un allié de toujours. Et ce qui va être à surveiller au niveau de la signification, de ce qui est significatif, vous allez le voir, depuis Reagan, une des deux premières visites à l'étranger, c'est le Canada. Barack Obama, sa première visite, c'était le Canada. Et Donald Trump est le premier à avoir, encore une fois, décidé de rompre avec cette tradition. Ça avait choqué les Canadiens à l'époque de se dire, bien, vous êtes notre allié. Et vous venez même pas nous visiter quand on est à côté. Vous demandez qu'on aille à Washington car vous venez d'être élu. Donc, à mon avis, on va faire le calcul politique de se dire que c'est mieux d'être allié avec ses voisins. On a des échanges commerciaux avec les États-Unis. On veut bien s'entendre. Donc, on va choisir dans les peut-être 2 premières visites d'aller au Canada, de visiter Justin Trudeau. Et qui se rappelle, bien sûr, de la fameuse, comme on appelait, bromance entre Justin Trudeau et Barack Obama. J'ai l'impression que Joe Biden est un peu dans le même état d'esprit. Il va vouloir démontrer, du moins devant le public.
Ouais. Mais peut-être un rapport peut-être plus à cause de la génération, quand même les générations qui les séparent. Justin Trudeau est un premier ministre quand même relativement jeune et tu le disais tout à l'heure, à 78 ans, M. Biden, il a même fait référence à ça quand il a parlé de Beau Biden, son fils, en rendant hommage aussi aux 400 000 victimes de la COVID là, dans son discours hier. Il disait, c'est peut-être mon fils qui aurait dû être à ma place et non pas moi. Donc il consent lui aussi que c'est un vieux président, là, c'est le plus vieux président que les Américains auront eu. En même temps, le rapport va peut-être être justement de peut-être plus grand-père à fils, à petit-fils peut-être, tu sais, moins bromance, mettons, qu'écoute grand-papa. Là. Grand-papa va te dire qu'est-ce qui va être bon pour toi.
Exactement. Peut-être que la bromance, on va trouver un nouveau terme ensemble, là, mais ça va être entre Kamala Harris et Justin Trudeau parce qu'elle risque d'avoir un rôle beaucoup plus important qu'avait Mike Pence dans la présidence Trump parce que c'est à la discrétion du président de dire ben, je donne cette marge de pouvoir à mon vice-président et comme c'est une présidence, encore une fois, de transition, ben, c'est à son avantage de donner des mandats spécifiques à Kamala Harris. Donc, je la verrais très, très bien, moi, justement, venir au Canada et rencontrer Justin Trudeau pour négocier au nom des Américains. Ça me surprendrait pas que ça se produise dans les prochains mois.
Je sais pas si tu as vu la une du Vogue, qui a dû d'ailleurs corriger son tir. Moi, ça m'a tellement... fait lever, ça. J'espère qu'on va avoir d'autres questions à Kamala Harris au cours des 4 prochaines années que c'est qui le designer qu'elle porte.
Oui.
Puis c'est important, là, de faire la promotion des designers, des couturiers. Mais je veux dire, les hommes peuvent le faire aussi. C'est pas parce que t'es une femme qu'on va encore te demander c'est quoi la marque de ton foulard. Ça, je peux pas croire qu'on va vivre ça, là. J'espère qu'on a, comme, tu sais, poussé le plafond de verre, il est encore là, on le sait, dans bien des secteurs. Mais on peut-tu lâcher les femmes élues avec des questions insipides comme ça, puis encore les confiner dans le même cadre de vous êtes la femme, donc comment tu t'habilles?
Ah oui, mais je voyais la question pour dire comment va se passer la sermentation de Joe Biden, c'était sur la politique, sur Kamala Harris et qu'est-ce qu'elle va porter.
Oh!
Et je veux pas justement être plate en disant que ça changera pas, mais à CNN, je l'entendais juste avant de venir ici, il y a eu un segment complet qui était réservé à ce que portait la première dame Jill Biden, ce que portait Kamala Harris. Et leur argument, c'est bien sûr de dire qu'ils font la promotion de jeunes designers américains.
Ben oui, mais là...
Mais on a autre chose à dire, à mon avis, en premier, avant de parler de ça. Ça devrait pas être la priorité quand on pense à une femme en politique. De parler de « elle a l'air de quoi ».
Bizarre, moi, j'aurais pas des questions qui touchent son linge, tu vois, Kamala Harris. Là.
Si on l'a en entrevue, Isabelle, je t'annonce qu'on va lui parler d'autre chose.
Écoute, tiens, on se met le défi.
Voilà.
Nous l'aurons ici.
On le vit ici.
Voilà, Valérie, merci, t'es fabuleuse, merci beaucoup.
Merci.
Je tiens à dire que tu seras d'ailleurs à l'antenne au cours de la journée, dans les émissions des collègues, donc les auditeurs, manquez pas donc les analyses de ma collègue Valérie Beaudoin. Elle est chroniqueuse politique américaine chez nous, Réseau Cogeco, chercheur associé à la chaire Raoul Dandu. Merci beaucoup, Valérie. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Vous me dites comment vous voyez ça, l'arrivée du nouveau président. Pensez-vous que ça va être bon? Donnez-moi un peu d'arguments. Là. Essayez de me dire plus que « ben oui, je suis content hein? ». Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un réel effet sur les relations avec le Canada et les États-Unis? C'est quand même très, très, très important ce qui se passe. Ça a été 4 années difficiles, je dois vous dire, là, pour les manufacturiers, pour les exportateurs, pour beaucoup d'ententes, ne serait-ce que pour l'ALENA. On l'a vu, là. Hein? Donc, c'est pas rien. Ce changement de ton est nécessaire. Ça va peut-être permettre à tous ceux qui font des affaires ici, que les Américains, de souffler un peu, puis peut-être de voir là, des possibilités, des opportunités d'affaires. On en veut, surtout après 300 jours et plus de pandémie. On va avoir d'autres invités pour vous. Et bien sûr, vos commentaires au 514-790-9850. Vous m'appelez de l'extérieur un peu partout. Les gens qui nous écoutent via le web, faites-le aussi. 1-866-790-9850. Lady Gaga, on était en direct de cette performance de la chanteuse Lady Gaga, c'est l'hymne national américain bien sûr, devant Biden et Harris. Sincèrement, je pense qu'on va parler de cette performance au cours de la journée parce que c'était fabuleux. Puis je vous disais à quel point ça me fatiguait qu'on parle des vêtements de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Mais dans le cas de Lady Gaga, je vais vous parler de ce qu'elle portait parce qu'ici, le vêtement sert à passer un message. Elle avait une magnifique jupe rouge, mais surtout sur un haut noir, elle portait une colombe dorée. Et le message ici, c'est la paix. Dans ce cas-là, on peut parler de vêtements parce que le vêtement a un but, c'est de rallier tout le monde. Mon Dieu, quelle chanteuse! Moi, j'en avais la chair de poule, je sais pas vous, là, mais Ouf, c'est quelque chose, hein. Je pense pas besoin d'être américain pour avoir été touché par cette interprétation magnifique de l'hymne américain par Lady Gaga. Évidemment, je vous redonne nos numéros pour nous joindre, 514-790-9850, pour nous dire si vous pensez là, que la relation avec les États-Unis et le Canada va prendre un ton différent. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Vous me dites. Avec nous, tout de suite, Christian Dufour, il est politicologue. Bonjour, Christian.
Bonjour Isabelle.
Alors je te pose la question, comment tu vois nos relations futures?
Nos relations futures, je pense, vont changer beaucoup sur le plan de la forme. Ça va être plus courtois entre M. Biden puis M. Trudeau. Ça va être plus rationnel, ça va être plus prévisible. Mais en ce qui a trait au fond, il faut pas se bercer d'illusions. Le président américain va défendre l'intérêt national américain et ça peut même être pire à certains égards qu'avec Trump. Rappelons que le dossier là, du pipeline Keystone, on nous dit qu'aujourd'hui, M. Biden va annoncer qu'il revient là-dessus. C'est une catastrophe, en fait, économique pour le Canada. Et dans la négociation de l'entente sur le libre-échange Canada-États-Unis, les démocrates auraient voulu que Trump soit encore plus dur avec le Canada. Mm-hmm. Dans l'avenir, évidemment, ça fait plaisir à beaucoup de Canadiens qui se prennent ces derniers temps pour des Américains. Hein. C'est fascinant à quel point ces derniers mois, on est tellement focalisé sur les États-Unis qu'on oublie parfois qu'on est Canadien. Bon, ça nous fait plaisir parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est pas une fête du tout. Là. Je comprends que l'interprétation de Lady Gaga est émouvante, mais c'est pas une fête. La seule bonne nouvelle, c'est que Trump s'en va, puis qu'on peut espérer, et je dis bien espérer, que le cauchemar se termine. Mais pour le reste, là, c'est empreint de tristesse. D'abord, l'ancien président Trump n'est pas là. Comme d'habitude, ils sont toujours là pour assurer une transition pacifique et courtoise. Il n'y a pas de monde, hein, COVID oblige. Il y a quand même eu le viol, je pense que le terme n'est pas exagéré, du Capitole, la démocratie américaine, il y a quelques temps. Et le défi qui attend
M.
Biden...
Avec les décès de plusieurs personnes.
C'est ça. Et le défi qui attend M. Biden est objectivement énorme. Moi, ce que je pense, Isabelle, c'est que M. Biden va avoir tendance à prendre un peu le Canada pour acquis. C'est un peu ça le problème du Canada. Le Canada, au fond, c'est pas un gros problème pour Biden. Hein. Il y a un tas d'autres problèmes, les relations avec la Chine, avec la Russie, avec l'Europe, avec. Donc, et son premier geste, bon, ça montre qu'il prend beaucoup le Canada pour acquis hein, dans le dossier de Keystone.
Ouais. Écoute, je t'écoute, puis en même temps, on a des écrans dans le studio, puis peut-être aussi que les auditeurs d'un œil regardent ce qui se passe à la télévision en nous écoutant. Kamala Harris vient d'être assermentée. Moi, ça m'émeut. Tu dis que c'est pas une fête. Moi, comme femme, comme fan de politique aussi, et comme citoyenne, je regarde cette femme, ses origines, son background, tout ça, qu'elle soit vice-présidente, qu'il y ait une femme vice-présidente pour la première fois aux États-Unis. Sincèrement, je trouve ça fabuleux. Pour moi, c'est une fête.
Je comprends que c'est symbolique, c'est émotif.
C'est plus que symbolique, Christian. C'est plus que symbolique.
On a quand même eu un président américain qui s'appelait Obama, qui a pavé la voie à Donald Trump.
Tout à fait.
La politique, là, les émotions en politique, là, il faut un peu s'en méfier parfois.
T'as raison, on peut quand même dire
aujourd'hui,
qu'il y a quelque chose qui se passe.
Je sais, je suis très rabat-joie. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, je leur souhaite bonne chance. Vraiment, j'espère que le cauchemar est fini. Au moins, Trump n'est plus là. Mais pour le reste, tout reste à faire.
Et écoute, tu leur souhaites bonne chance comme Donald Trump l'a fait. Donald Trump, il a dit « You will need luck, là. » Good luck, parce que tu vas en avoir besoin de la chance, qu'il disait.
C'est ce que je voudrais surtout dire, là. C'est la seule chose sur laquelle je voudrais insister, là. Ouais. Il ne faudrait pas que les Québécois et les Canadiens oublient une chose, là. On n'est pas des Américains.
Oui, t'as raison.
Parce que là, il y a une espèce, c'est à dire exagéré, depuis quelques mois, on ne parle que de la COVID et des États-Unis. Je comprends que la version très généralisée pour Trump nous a amené à focaliser là-dessus, mais il ne faut pas oublier notre intérêt à nous comme Canadiens. Et dans ce sens-là, Joe Biden, je suis bien content qu'il soit là, mais comme Canadien, Keystone, c'était mieux avec Trump. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité.
Oui. On a Véronique Proulx avec nous. Elle est présidente directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec. Bonjour, Véronique.
Bonjour Isabelle.
Hein, une première femme vice-présidente, c'est quand même... On va le prendre, hein?
Absolument, c'est emballant.
Voilà.
C'est emballant.
Sur la relation nouvelle, êtes-vous emballée? Pensez-vous que ça va donner de l'air aux manufacturiers exportateurs du Québec?
Ben, je voudrais que pour les exportateurs, dans un premier temps, il va y avoir plus de prévisibilité, moins d'incertitude que ce qu'on a connu certainement dans les 4 dernières années. Mais c'est clair qu'on s'attend à une montée du protectionnisme américain, particulièrement pour tout ce qui touche les contrats publics, les contrats financés par le gouvernement fédéral, les États ou les municipalités. Donc, ça va être plus difficile qu'avant d'avoir accès aux contrats publics américains.
Comment vous voyez donc les prochaines semaines? Là? Parce que là, on le disait tout à l'heure, ça a comme commencé fort avec Keystone. Comment vous voyez les liens, les premières discussions? Évidemment, ça va se jouer avec le premier... avec le Justin Trudeau, pardon. Comment vous voyez ça, là?
Ben, je voudrais, le président Biden avait annoncé ou va annoncer par décret qu'il va renforcer le Buy America et Buy American Act, qui essentiellement réglemente tout ce qui touche les contrats publics, l'octroi de contrats publics aux États-Unis.
Ouais.
Donc, ça veut dire que pour le gouvernement Trudeau, il va falloir rapidement mettre à profit ces bonnes relations qu'on semble avoir avec le président américain, avec les démocrates, pour s'assurer qu'on a des bonnes relations commerciales et qu'on mette de l'avant le fait que nos chaînes d'approvisionnement sont très intégrées. Donc, il faut, on n'est pas en concurrence, on n'est pas des compétiteurs, on doit travailler ensemble pour préserver la compétitivité du marché nord-américain. Et ça, c'est un message que le premier ministre Trudeau, que ses ministres, que tous vont devoir porter pour s'assurer de maintenir un certain accès au marché américain.
Mm-hmm. Christian Dufour.
Oui, ben c'est ça, en fait. On revient, en fait, aux relations canado-américaines plus traditionnelles, hein, bon, où il y a des convergences, mais on est tellement près d'eux, on est en situation de lèche-vitrine par rapport aux États-Unis. Hein. Il y a beaucoup de Canadiens qui connaissent plus le système américain que le système canadien. Bon, donc on revient business as usual, mais en même temps, le contexte international a tellement fondamentalement changé. Je sais à quel point les relations personnelles entre deux personnalités de gauche, M. Justin Trudeau puis M. Joe Biden, vont avoir un impact sur la politique de M. Biden. C'est ça ma question, parce que dans le passé, ça a déjà joué. On se souvient, Ronald Reagan avec Brian Mulroney, il y avait eu quasiment un roman d'amour et ça avait eu des impacts politiques. Bon, je sais à quel point M. Trudeau va être capable d'influencer M. Biden, ou est-ce que les États-Unis, au-delà des beaux discours, de l'émotion, tout ça, vont prendre le Canada pour acquis?
Oui, c'est ça. Et on va revenir là-dessus, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est intéressant, cet aspect-là, qui est peu, d'ailleurs, discuté en ce moment. Ça commence, vous allez me dire, on commence tout juste à repartir la discussion, à savoir est-ce que les relations vont changer. Mais Christian, je pense que tu pourras nous analyser ça aussi plus à fond. On dit souvent que les démocrates sont plus protectionnistes que les républicains, et ça, il faut le garder en tête, là. Et c'est là où tu as raison de dire, bon, là, on était mieux aujourd'hui, on met ça de côté pour le reste des prochains 4 ans. Il faudra peut-être faudra trouver le ton aussi. Il faudra trouver une façon de négocier avec les Américains pour tirer notre épingle du jeu. Véronique, vous restez également avec nous. On vient tout de suite après ceci. Marc-Antoine, bonjour. Comment vous voyez les choses désormais entre le Canada et les États-Unis?
Moi, je vais vous avouer, je suis quand même assez sceptique de Joe Biden, parce que c'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, comme c'est là, il suit exactement les pas du Global Goal de l'ONU et du Forum, du plan du Grand Reset du Forum économique mondial, avec des slogans comme Build Back Better ou, bref, dans cette tranche-là, je vous avoue, là, je suis en train de conduire un camion,
ouais.
Un peu dur de parler de tout.
Donc, vous avez des doutes. Vous dites,
j'ai de très grands doutes que ça va bien aller nécessairement avec lui, parce que, justement, pour la semaine prochaine, je pense que c'est Klaus Schwab, le directeur du Forum économique mondial. Il s'attend à faire une réunion avec lui, Xi Jinping, Macron, Merkel et Trudeau, concernant toutes les prochaines mesures qu'ils vont faire. Ils disent, admettons, selon la pandémie et l'économie, ils vont parler de ça, mais ils amènent souvent le sujet d'un revenu universel aussi garanti. Fait que j'ai quand même de sérieux doutes qui pourraient amener comme plus que simplement de la gauche, mais aussi du communisme.
Merci Marc-Antoine. Anne-Marie, votre opinion?
Oui, bonjour. En partant, ça va beaucoup aider au niveau des échanges, plus de courtoisie, plus de classe dans les échanges.
Ouais.
Il y a une approche humaine beaucoup plus libérale. On le voit d'ailleurs avec les gros changements qu'il fait au niveau de toute la communauté LGBTQ, d'avoir quelqu'un qui fait partie de cette communauté-là au sein même de son gouvernement. C'est un homme qui n'a pas peur de s'entourer de femmes fortes, qui ne se sent pas émasculé par des femmes fortes autour de lui. On pense à Kamala, mais on pense aussi à son épouse, Jill, qui est une femme très forte, très déterminée. Puis on parlait un peu qu'elle allait défendre les intérêts des États-Unis, puis qu'elle allait tout ce qui est la mise en marché et toutes ces choses-là qui allaient promouvoir finalement de garder une économie à l'intérieur, ben, il est là pour ça aussi, là, pour essayer de refaire briller à l'intérieur même des États-Unis, les États-Unis, contrairement à un certain président qui a amené au terrorisme intérieur. Là.
Ouais, merci beaucoup, Anne-Marie. Merci bien. Et c'est assez juste ce qu'elle vient de nous dire. En même temps, il vient d'être assermenté à l'instant. Là, c'est Joe Biden là, qui s'adresse aux Américains. Puis déjà, les premiers mots utilisés, c'est l'espoir du renouveau. Il dit que c'est un moment important, historique et que, bon, évidemment, il rappelle que la volonté du peuple a été entendue. Celle-là pourrait toujours être débattue. Il y a encore beaucoup de gens qui estiment que sa majorité était loin d'être éclatante. Mais toujours est-il qu'il insiste sur les fondations de la démocratie, le fait que les Américains soient rassemblés ici dans un même but, c'est-à-dire de ramener la paix. Si vous voulez bien, on va l'entendre quelques secondes au moment de son assermentation.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. Thank President.
Ben voilà, c'est fait. Je me retourne à nouveau vers mes invités. Véronique Pou, présidente directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec. Christian Dufour, politicologue. Christian qui nous disait que pour lui, c'était une journée quand même pour la démocratie. Christian, tu disais, c'est pas une fête, là, c'est même plutôt un jour triste, mais pour la démocratie, est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu de baume là, à y voir sur une plaie là, qui a été creusée au cours des 4 dernières années?
Un peu de baume, comme vous dites, pour la démocratie. En fait, moi, ce que je retiens, c'est que le défi de M. Biden est objectivement énorme. Moi, j'ai pas le souvenir de président américain qui était confronté à ça, parce qu'il prend la tête d'une nation qui est profondément divisée. Là. S'il va trop à gauche, je trouve pas que c'est une bonne chose. Là. On peut dire une nation américaine carrément traumatisée à beaucoup d'égards. Il y a une pandémie historique à gérer. Il y a les relations qui sont détériorées avec la Russie, la Chine. Et M. Biden, bon, c'est quand même pas un inconnu, parce qu'il fait longtemps qu'il est en politique, mais c'est un gros point d'interrogation. Jusqu'à quel point il va être à la hauteur de ça? Je souhaite vraiment qu'il soit à la hauteur de ça. Mais au-delà de l'émotion, du fait que Trump n'est pas là, il faut comprendre, tenant compte de l'ampleur du défi, est-ce qu'il va être capable? C'est loin d'être évident, hein? Parce que c'est dans... C'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve, moi, franchement, je trouve pas que c'est une fête, fondamentalement. On a évité le pire. Trump n'est plus là. C'est ça, en fait, on peut se réjouir de Trump n'est plus là.
Oui. Véronique, dites-nous, les gros dossiers pour le Québec, à votre avis, ceux que vous allez vouloir pousser de l'avant, là, quels sont-ils?
Bien, dans un premier temps, comme je le mentionnais un peu plus tôt, ça va être de s'assurer de maintenir un accès aux contrats publics, surtout dans des secteurs qui sont plus névralgiques ou stratégiques pour le Québec, pour le Canada. Puis peut-être un aspect positif de toutes les politiques que le président Biden va mettre de l'avant, il a annoncé un plan qui devrait être approuvé, mais de 1100 milliards de développement. Alors, on peut s'attendre à des projets d'infrastructure, plusieurs projets d'investissement à tous les niveaux aux États-Unis. Et ça va être bénéfique pour les exportateurs québécois, canadiens, encore une fois, parce que ça va ouvrir des portes. Ça va générer de la demande et les entreprises américaines ne seront potentiellement pas capables de répondre à tout ça. Donc, ils vont devoir se retourner vers leurs partenaires stratégiques, dans le Canada.
Voilà. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Véronique Proulx, présidente directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec. Merci beaucoup, Christian Dufour, politicologue. Joe Biden, 46e président des États-Unis, vient de déclarer que notre histoire dépend de nous tous. Il va falloir relever les défis qui se présentent, restaurer l'âme de l'Amérique. Ça va demander beaucoup plus que des mots, dit-il. Tout ça, ça se poursuit à l'antenne de cette émission et des prochaines. À demain, tout le monde.